Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
8h15, avec le coup d'envoi des régionales, les forces politiques sont encore en ordre de marche pour la présidentielle. Et il y a 40 ans, presque jour pour jour, le 10 mai 1981, François Mitterrand était élu président de la République. Le lendemain, dans la matinale d'Europe 1, le reporter Gilles Rabin faisait le compte-rendu de cette soirée sans fin.
La Bastille avait hier soir des airs de 14 juillet. Les chansons à boire alternaient avec l'international. La place illuminée, les podiums et les écrans géants, c'était un décor grandiose et irréel pour une fête joyeuse, spontanée et improvisée. Malgré la centaine de haut-parleurs...
Bonjour Jacques Attali.
Bonjour Pierre de Villeneuve.
Ce 10 mai 1981 a changé d'une certaine manière le cours de votre existence. Il a été l'apogée d'une quête que vous avez commencée avec François Mitterrand à peu près 10 ans auparavant, un peu plus. Vous le racontez dans ce livre qui vient de paraître. Il y aura d'autres jolis mois de mai chez Fayard. Un livre que vous écrivez ne pas avoir voulu, narcissique, mais dans lequel vous confiez, sans doute plus que jamais, vous confiez sur vous, sur votre famille, sur ce jeune homme, de ce jeune fils d'immigré algérien qui...
Non, pas d'immigré, de français.
C'est votre grand-père qui était d'origine algérienne.
Non. Nous sommes des juifs d'Algérie.
Exactement. Voilà. Et ensuite, vous...
Donc
vous parlez
français.
De votre,
pas du tout immigré.
Vous parlez de votre grande passion, la musique. C'est très émouvant. Moi-même, je suis fils d'émigré, Jacques Attali. J'ai aucun problème là-dessus.
C'est juste une précision.
Et ce que je voulais dire par ce message, c'est que c'est un livre très très émouvant. Et
merci.
Parce que c'est un livre très émouvant, parce que ça casse un peu avec la stature dont vous nous avez donné l'habitude d'un Jacques Attali toujours très sérieux. Vous avez habitué à ça. Ce 10 mai 81, vous êtes où? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui vous passe par la tête?
Ça peut paraître étrange, mais pour moi, le 10 mai 81 n'est qu'un remake gagnant d'un 10 mai ou d'un 9 mai, je ne sais plus quelle était la date exacte, beaucoup plus intéressant, 7 ans plus tôt. Donc, j'avais dirigé la campagne de François Mitterrand en 1974, comme celle de 1981. J'avais, donc en 1974, j'avais 30 ans. C'était une aventure incroyable, extraordinaire, une sorte de campagne éclair que nous avons perdue de justesse et qui était passionnante. 1981, ça a été un remake avec 7 ans d'attente, de précision, d'amélioration, heureusement, du programme. Peut-être, sans doute, était-il mieux de ne pas gagner 80. Et donc, en 80, je vis exactement la même journée qu'en 74, chez moi, puis ensuite l'attente, puis enfin aller au siège du Parti Socialiste, qui, en 74, nous étions à la Tour Montparnasse, en 80, nous étions rue de Solferino, on attend. Moi, je n'ai pas de doute. En 74, je savais que c'était perdu depuis toujours. Personne ne nous donnait la moindre chance. En 80, je savais depuis exactement le 16 mars au soir, date d'une émission célèbre de télévision où deux journalistes d'Europe 1, d'ailleurs, oui, ont tendu un piège à François Mitterrand.
Sur la peine de mort.
Sur la peine de mort, piège pour le faire battre, piège qui a conduit à l'inverse. Et les sondages se sont en effet retournés au lendemain de cette émission. Donc,
vous saviez?
Oui, nous savions, les sondages étaient fermes, et il n'y avait que quelques-uns, je pense, auprès du président Giscard qui pensait que ça se retournerait au dernier moment.
Ce 10 mai 81, vous êtes donc, vous dites chez vous, François Mitterrand, il est où?
Non, je suis chez moi au début de l'après-midi, puis je suis au siège du Parti Socialiste où nous nous retrouvons tous ceux qui avaient...
Avec François Mitterrand?
Non. François Mitterrand est à Château-Chinon. Nous sommes là, on attend, on a les résultats vers 18h20, comme aujourd'hui, quelque chose comme ça. On l'appelle, il venait d'avoir les résultats une minute avant, je pense, par un journaliste, et il fait comme s'il apprenait de nous. Et il nous dit quelle histoire, et puis voilà. Donc on est là, on est au début de quelque chose qui va être considérable, évidemment.
Et François Mitterrand, à Château-Chinon, prend la parole.
Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais.
François Mitterrand arrive au pouvoir. Bon, vous avez le programme, soit, mais il reste tout à faire. Comment est-ce que tout se met en ordre de marche?
Tout se met en ordre de marche. D'abord, il faut attendre le 21 mai. Et ce qui se joue entre le 10 et le 21 est très important parce que c'est une panique dans le mouvement, dans le monde financier. C'est une immense sortie de capitaux de tout le monde qui croit que les chars russes vont arriver.
On fuit.
Et le gouvernement de M. Giscard d'Estaing et de M. Lombard refuse de prendre des mesures de contrôle d'échange, disant que c'est au prochain président de le faire. Ils lui font demander par mon intermédiaire de donner des instructions, ce que le président futur refuse de faire, disant je ne suis pas président avant le 21 mai. Et cette période a été tragique pour la suite, puisque nous avons perdu l'essentiel des réserves de change de la France. Beaucoup de capitaux sont sortis, légalement ou illégalement, et c'était un moment terrible. Donc, on se prépare.
Ça, c'est sur le fond, mais j'allais dire dans l'esprit, est-ce qu'il y a une période de flottement ? On disait d'ailleurs, certains insides nous ont dit que quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, à 20h, quand il apprend le résultat, dans l'équipe de campagne, c'est la panique. On se dit, mais ça y est, on y va, qu'est-ce qu'on... c'est le grand plongeon.
Nous n'avions pas ce sentiment-là. D'abord parce qu'on était extrêmement prêts, puisque à la différence de ce qui s'est passé dans la dernière présidentielle, nous avions beaucoup eu le temps de préparer, de réfléchir. Moi-même, j'avais animé une équipe dirigée par deux conseillers d'État remarquables, Nicole Questiau et Jacques Fournier. Et nous avions tous les textes de loi et tous les décrets sur la peine de mort, la décentralisation, la libération des ondes, les lois sociales, la retraite à 60 ans, tout était prêt. Donc on n'avait plus qu'à appuyer sur un bouton. La seule chose qu'on ne savait pas, c'est qui d'entre nous, ou si certains d'entre nous, seraient quelque part pour appuyer sur les boutons.
La présidentielle 2022 se profile, ça ne vous a pas échappé. Dans un an tout juste, on va connaître des heures semblables dans les camps politiques. Il y a 4 jours sur France 5, vous pronostiquiez une victoire de Marine Le Pen. Vous expliquiez que tout convergeait vers cela avec plusieurs arguments. Et vous voyez aussi des points communs avec François Mitterrand.
Je pronostiquais en disant qu'il est temps de se réveiller, parce que je souhaite qu'elle n'ait pas lieu, cette victoire. Des points communs, non pas sur la personne, naturellement, qui
sur
est
le parcours,
ni sur le programme, mais sur la situation politique. François Mitterrand, comme elle, a été candidat 3 fois avant d'être élu. C'est d'ailleurs aussi le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui est aussi candidat pour la 3e fois. Mais Marine Le Pen a été au 2e tour. Et donc ça, c'est créé un point commun. Le sentiment aussi que c'est pas possible, il peut pas gagner, elle ne pouvait pas gagner. Le fait que certains, chez ses adversaires, jouent en sa faveur en espérant que le tour d'après soit pour eux. Et il y a beaucoup de gens à droite ou aussi à gauche qui, consciemment ou inconsciemment, jouent pour Marine Le Pen en pensant que le tour d'après est pour eux. Donc tout ça crée une convergence avec aussi le sentiment que il faut dégager. C'est ce qui s'est passé avec François Mitterrand. Il y a aussi non seulement lui qui a été élu, mais M. Giscard d'Estaing qui a été battu. Donc le sentiment qu'il faut se débarrasser de la classe politique en place.
Vous allez souvent à des enterrements, Jacques Attali ?
Malheureusement, j'ai eu la tristesse d'avoir accompagné pas mal de mes amis. Oui. Je ne sais pas pourquoi cette question.
Est-ce que vous êtes prêt à aller à l'enterrement de la gauche française ?
Ah, non, ça c'est... Non, je ne crois pas du tout. Je crois que la gauche comme la droite revivront.
Comment ? Avec quel programme ? Avec Anne Hidalgo ? On parle beaucoup d'elle.
Voilà, on parle de programme et vous venez sur les personnes. Non, je pense que...
Ah bah, il faut une incarnation, vous le savez aussi bien
que moi. Non.
François Mitterrand, c'était une incarnation.
François Mitterrand incarnait un programme. Le programme, pour moi, passe avant l'incarnation. Donc, je rêve d'un système institutionnel où le premier tour de l'élection consisterait à choisir un programme et le deuxième tour conduirait à choisir la personne qui conduirait la mise en œuvre de ce programme.
Vous allez le proposer à l'automne ?
Je vais proposer un programme à l'automne, fait par un très très grand nombre de Français, à la fois d'experts et de citoyens de toute nature. Vous verrez cela le moment venu, comme je le fais d'ailleurs pratiquement à chaque élection présidentielle, pour créer les conditions de montrer qu'il y a énormément de choses à faire qui sont des évidences, mais que personne n'ose. Et nous allons les mettre sur la table.
Jacques Attali, question, pourquoi est-ce que vous êtes de gauche ?
Je suis de gauche d'abord par tradition familiale, mais aussi par le fait qu'à chaque fois qu'un choix se présente, la justice sociale me paraît essentielle.
Qu'est-ce que ça représente pour les Français ?
Je vais vous donner 2 raisons, si vous me donnez une seconde. Deux remarques. La première, je suis de gauche, mais il m'arrive de reconnaître qu'un homme de droite a raison.
C'est vrai.
Et de penser que son avis est important et que pourquoi pas entendre. Donc je ne suis pas du tout enfermé dans une logique binaire. Mais moi, je suis de gauche pour mon enfance, pour tout ce qui m'a animé dans mon enfance, pour le fait que mon premier choc émotionnel politique s'est fait un jour dans une rue de Téhéran, où j'ai été très très jeune consultant pour les Nations Unies et où j'ai vu un gamin de 7 ans au pied de mon hôtel de luxe où j'étais là, envoyé par les Nations Unies.
Vous le dites dans le livre.
En train de faire ses devoirs en mendiant au pied de l'hôtel. Cette image m'a toujours hanté. Et je me suis toujours dit que c'était pour cet enfant-là, où qu'il soit dans le monde, quoi qu'il soit devenu aujourd'hui, que j'ai toujours travaillé.
Il y aura d'autres jolis mois de mai. Vous publiez votre dernier livre chez Fayard. Merci Jacques Attali d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.